avec des températures qui là aussi gagnent quelques degrés. 10 degrés à Dunkerque cet après-midi, 12 à Aurillac et Lille, 14 degrés à Nice, Strasbourg et au Havre, 16 degrés à Paris et Nîmes, 18 à Grenoble et Perpignan et 19 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 26 avril, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et Europe 1 vous emmène ce matin sur le campus de UCLA, l'Université de Los Angeles. Le mouvement des étudiants pro-palestiniens continue de s'y développer. Et vous allez l'entendre, hein, les étudiants juifs ne sont pas les bienvenus. Et les journalistes ont toutes les peines du monde à exercer la liberté d'informer. Nous irons également à Bruxelles, où les frères musulmans imprègnent chaque jour un peu plus la capitale européenne. Pression de plus en plus difficile à vivre au quotidien pour les Belges. Un geste de désespoir qui aurait pu lui être fatal. Kenji Girac, admis à avoir voulu simuler un suicide pour tenter de retenir sa compagne. Mais il a omis de vérifier si le chargeur était vide. Explication dans un instant. Et puis Europe 1, radio officielle de Roland-Garros encore cette saison. Le tournoi débute dans un mois avec une nouveauté, un toit tout neuf au-dessus du cours Suzanne Lenglen. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Écoutez, c'était hier soir à Sciences Po Paris. Plus d'une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens ont occupé une nouvelle fois le bâtiment de la rue Saint-Guillaume. Ils en avaient déjà été évacués la veille. Ils réclament, je cite, la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et l'arrêt de ce qu'ils estiment être une répression des voix pro-palestiniennes sur le campus.
Voilà, démobilisation partie des universités américaines, notamment à Columbia, à New York, qui a des cursus d'ailleurs en commun avec Sciences Po Paris.
La direction de cette université américaine a décidé ce matin d'ajourner l'évacuation prévue ce soir. Elle veut poursuivre les négociations avec les collectifs pro-palestiniens. En revanche, la police est intervenue dans de nombreux États. Au total, près de 400 manifestants interpellés, une soixantaine d'universités concernées, dont celle de UCLA à Los Angeles, où ni juifs ni journalistes ne sont les bienvenus à Viva Fried.
Oui, environ 200 manifestants ont érigé des tentes sur une pelouse au centre de l'université. Tout autour, il y a des palettes en bois sur lesquelles sont accrochées des affiches proclamant « Free Palestine » ou bien encore « Abat l'impérialisme américain ». Des étudiants, tous masqués, revêtus de keffiyeh, se relaient au mégaphone pour hurler des slogans. Les journalistes ont interdiction de passer la barrière et de parler à n'importe qui. J'ai dû attendre qu'une porte-parole officielle du mouvement veuille bien me répondre par un discours bien rodé.
Nous sommes ici car on ne peut pas faire comme d'habitude alors qu'un génocide se déroule à Gaza depuis 200 jours.
Et pas question, bien sûr, de mentionner les otages israéliens retenus par le Hamas.
Si on pense à autre chose, ça nous détourne de notre principal objectif.
Une vingtaine d'étudiants arborant des drapeaux israéliens circulent sans encombre. Pourtant, une étudiante juive m'explique qu'au quotidien, les choses sont compliquées.
J'ai eu une altercation avec une femme. Elle a regardé mon étoile de David et elle m'a poussée violemment.
Mais la direction de UCLA n'a pas l'intention pour l'instant de prendre des mesures contre le campement. La présence policière sur place est d'ailleurs quasi inexistante.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Emmanuel Macron a annoncé hier soir envisager de nouvelles sanctions contre les colons israéliens, coupables selon lui de violences sur des civils palestiniens.
Oui, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le roi de Jordanie, Abdallah II, le chef de l'État a condamné la colonisation en Cisjordanie et rappelé que des mesures de sanctions avaient déjà été prises par la France, mais aussi la semaine dernière par l'Union européenne.
Les institutions européennes qui subissent la pression permanente de l'entrisme islamiste, notamment à Bruxelles.
La capitale européenne de plus en plus islamisée, Europe 1 a choisi de vous en parler ce matin. Dans certaines rues, on ne trouve plus que des boutiques de voile intégrale, des poupées sans visage et autres accessoires fidèles à la charia. Une réalité de plus en plus portée par les femmes voilées et qui pèse sur le quotidien des Bruxellois, comme l'expliquait ce matin Fadila Maroufi, directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Elle était l'invitée d'Europe 1 matin à 7h10.
Ces 20 dernières années, ce qu'on constate, c'est que les femmes sont en avant-plan des militantes islamistes qui revendiquent le droit de porter le voile et de le porter partout. Elles sont éduquées pour la plupart du temps, elles ont un niveau d'éducation universitaire et elles sont très influentes parce que les frères musulmans, évidemment, ont compris qu'avec les femmes, ils pouvaient avancer leur projet califal, imposer les normes chariatiques ici à Bruxelles, mais aussi partout en Europe, puisque Bruxelles est quand même aussi la capitale de l'Europe, les institutions européennes s'y trouvent.
Oui.
Et il y a une influence des frères musulmans qui est très présente. Mais c'est aussi dans certaines écoles, l'équipe éducative est constituée, la direction de personnalités de confession musulmane. musulmane, ces professeurs réprimandent les filles qui parlent, par exemple, dans les couloirs de l'école avec un garçon. Elles sont réprimandées par ces professeurs. Si elles décident d'enlever le foulard lors d'une sortie à la mer, elles sont rappelées à l'ordre parce que enlever son voile est péché.
Fadila Maroufi, invitée d'Europe 1 Matin, entretien retrouvé sur europe1.fr.
Il est 8h05 en Iran. En revanche, les femmes aspirent de plus en plus à retirer leur voile et à se libérer de la charia malgré la répression des mollahs.
Et c'est parce qu'il a soutenu ce mouvement de libération des femmes dans ses chansons que le rappeur iranien de 33 ans, Toumaj Salehi, a été condamné à mort. Une décision que le Quai d'Orsay estime injustifiable et que la France condamne avec vigueur.
Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h05.
Simuler un suicide pour que sa femme ne le quitte pas. Voilà ce qui se serait joué dans l'intimité de la caravane de Kenji Girac lundi matin.
Et c'est en tout cas ce qu'a affirmé le chanteur aux enquêteurs. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 dans les Landes, vous avez assisté hier à la conférence de presse du procureur de la République de Mont-de-Marsan qui a restitué le témoignage de Kenji Girac.
Oui, le magistrat a livré beaucoup de détails. Dans les heures qui ont suivi ce coup de feu, souvenez-vous, Kenji Girac avait parlé d'un accident de manipulation de l'arme de sa part. Impossible, disent les spécialistes de la balistique, les experts, qui écartent aussi un tir effectué par une autre personne. Ce n'est pas compatible avec la disposition des lieux. Dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque Kenji Girac retrouve sa compagne et leur petite fille dans la caravane, il a beaucoup bu, 2,5 g d'alcool dans le sang, d'après les estimations médicales qui seront faites. Éclate alors une dispute entre le chanteur et sa femme, d'autant qu'en rentrant, il a réveillé leur enfant de 3 ans. Soraya envisage de partir alors qu'elle se trouve avec sa fille dans la chambre. L'artiste de 27 ans, lui, est seul dans le salon et va s'emparer du pistolet acheté quelques jours plus tôt. Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il l'a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Sur le plan judiciaire, quelques expertises sont encore en cours, mais le procureur a clairement laissé entendre que cette procédure devrait se terminer par un classement sans suite.
Stéphane Place en direct de Mont-de-Marsan dans les Landes pour Europe 1. Notez que les proches de Kenji Girac ont jugé la conférence de presse du procureur de la République indécente. Sur X, le chanteur Vianney a critiqué un procureur, je cite, multicasquette, et d'ajouter « j'espère que la presse people lui enverra des fleurs ».
Le coup prêt est attendu pour ce soir. Les agences de notation Fitch et Moody's doivent réévaluer la note de crédit de la France.
Une dégradation de la note, si elle reste raisonnable, n'aurait pas beaucoup d'impact sur les marchés. D'autant que la France, même dans le rouge, reste une place qui séduit les investisseurs.
Oui, mais un pays où le coût du travail est de plus en plus lourd pour les entreprises.
Et selon un rapport de l'OCDE, nous sommes les champions du monde des charges patronales. Sur les 38 pays passés au crible, c'est en France que les employeurs ont payé le plus haut niveau de cotisation en 2023. Et c'est un sacré handicap, Barthélémy Philippe.
Oui, malgré les récentes politiques d'allègement de charges, les cotisations patronales pèsent toujours très lourd en France. Un peu plus de 26% des coûts de main-d'œuvre supportés par les entreprises. C'est deux fois supérieur à la moyenne de l'OCDE qui tourne autour de 13% et beaucoup plus élevé que chez nos voisins européens. Par exemple, en Allemagne et au Royaume-Uni, les charges patronales ne représentent respectivement que 16 et 10% des coûts de main-d'œuvre. Évidemment, le poids de ces charges freine la compétitivité française. Alexander Pick est membre de la division fiscalité de l'OCDE.
Le coût de travail, ça reste très élevé en comparaison avec la plupart des autres pays. Ceci dit, il y avait une petite baisse en 2023.
La pression fiscale sur le revenu est l'une des plus fortes au monde. Au total, les charges patronales, salariales et l'impôt sur le revenu représentent près de 47% du coût de la main-d'œuvre. En France, un employé au salaire moyen, environ 2600 euros net par mois, coûte plus de 6000 euros à son employeur.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
Les sports, Roland Garros, c'est dans un mois.
Oui, Europe 1 est encore fier cette année d'être radio officielle du Grand Chelem parisien. Pour cette édition 2024, aucun risque d'être embêté par la pluie. Tous les cours seront couverts, même le Suzanne Lenglen, Axel May.
Roland Garros, c'était la dernière épreuve du Grand Chelem à ne proposer qu'un seul court couvert. Ce ne sera plus le cas. 4 ans après le central, le Suzanne Lenglen se dote enfin d'un toit rétractable. Se félicite la directrice du tournoi parisien, Amélie Mauresmo.
C'était vraiment important d'avoir ce deuxième court couvert en capacité d'abriter 10 000 personnes. C'est un vrai plus pour nous en termes de programmation de sécurité sur des journées où on saura qu'il risque de pleuvoir.
Pour la première fois, le cours Suzanne Lenglen sera d'ailleurs utilisé lors de la semaine des qualifications, semaine durant laquelle les organisateurs visent 75 000 spectateurs, 50% de plus que l'année dernière. Sur l'ensemble du tournoi, plus de 650 000 personnes sont attendues, porte d'Auteuil, ce qui constituerait un nouveau record. Parmi les autres nouveautés, une 11e session nocturne va faire son apparition et la billetterie sera totalement dématérialisée. Pour pouvoir présenter leurs billets, les spectateurs devront donc télécharger l'application Roland-Garros.
Axel May.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 à partir de 8h30. Vos signatures du vendredi, on retrouvera Eugénie Bastier qui nous parlera de la GPA, Catherine Ney, elle du discours d'Emmanuel Macron hier à la Sorbonne. Dans un instant, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, est l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews face à Romain Desarbres.
7h, 9h. Europe 1 matin. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Tout est bon ?
Tout est bon dans le jambon de Paris décoiné et dégraissé de chez Lidl, patron. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, il y a moins 50% sur le deuxième paquet de 6 tranches, soit 1,30€.
3,91€ les deux ! Ils nous prennent pour des jambons ?
C'est un vrai prix tranché, patron.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,88€ le kilo pour un produit, 8,15€ le kilo pour deux produits. Offre valable jusqu'au dimanche 28 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Ce vendredi, jackpot Euromillion de près de 150 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Yeah, yeah, wow. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4 euros. Un jour, vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4 euros, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule Glouglou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Burger King.
On sort ce soir, on pourrait aller au ciné, ou aller voir une expo, ou un concert. Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes là ?
Hein, pardon, tu disais ? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable.
Capital. Jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, hey, tu me le prêtes ?
La Meute, c'est le nouveau thriller d'Olivier Ball. Des notables enterrés vivants, des réfugiés assassinés. Le cauchemar a un nom, La Meute. Un groupuscule terrifiant qui pourrait bien faire vaciller la société. Pour l'enquêtrice Sofia Giordano, une plongée glaçante dans la mécanique du fanatisme. La Meute d'Olivier Ball. Un livre XO.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Tout de suite sur Europe 1, Catherine Vautrin est l'invitée de Romain Desarbres.
Catherine Vautrin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur CNews Europe 1. C'est votre grande interview. Vous êtes ministre du Travail, ministre de la Santé et des Solidarités. Beaucoup de sujets évidemment à aborder avec vous. Je voulais commencer déjà avec l'Europe et notre tout dernier baromètre OpinionWay pour CNews Europe 1 et le JDD. La liste de Jordan Bardella gagne 1 point à 30%, suivi 12 points derrière par Valérie Ayé, la candidate de la majorité présidentielle, avec 18% d'intention de vote, en baisse d'un point sur une semaine. Et en troisième position, la liste PS de Raphaël Glucksmann, 13% plus un point. Ça ne bougera pas, les jeux sont faits ou ça peut encore évoluer.
Vous savez, moi je ne suis pas pronostiqueur, je suis une femme politique et mon enjeu c'est de parler d'Europe. Parce que notre sujet, c'est que nos concitoyens mesurent bien que le sujet dont nous allons parler, c'est l'avenir de l'Europe, c'est que va-t-il se passer entre 2024 et 2031, c'est-à-dire comment on s'organise, qu'est-ce que l'on veut. C'est tout le sens d'ailleurs du discours d'un chef de l'État européen hier, le président de la République française, qui a expliqué ce qui se jouait, comment se situait finalement un continent européen qui est entre les États-Unis d'un côté, qui s'occupe évidemment des États-Unis, et ensuite les États-Unis qui regardent la Chine. De l'autre côté, la Chine avec tout ce que peut comporter ce pays, et vous ajoutez à cela la situation internationale qui est particulièrement préoccupante. C'est cela dont il s'agit.
Mais pour l'instant, le discours de Valérie Ayé ne semble pas séduire les Français.
Aujourd'hui,
au-delà de 18%.
Mais
en tout
nous
cas.
Sommes aujourd'hui sur, évidemment,
à 6 semaines du vote.
Nous sommes à 6 semaines du vote. Nous sommes à un moment où nous ne sommes pas encore entrés. Dans quelle vision de l'Europe avons-nous? Moi, mon message est extrêmement clair. L'Europe est menacée. Et je crois que c'est la première fois que nous avons une élection où se joue l'avenir de l'Europe. Et c'est cela que je veux partager avec nos concitoyens. Quel modèle voulons-nous? Qu'est-ce que nous apporte l'Europe dans notre quotidien? Que serait l'agriculture sans l'Europe? Que serait la santé? Je suis ministre de la Santé. Rappelons-nous, c'est pas si vieux, le Covid. Comment avons-nous eu les vaccins? Grâce à l'Europe. Demain, comment on règle, par exemple, le sujet des maladies rares? C'est avec l'Europe. Donc, vous le voyez, nous avons des sujets très concrets qui doivent entrer dans cette campagne, plutôt que de savoir si X ou Y fait plus 1 ou moins 1. Parlons du fond, emmenons nos concitoyens vers le fond de la campagne.
Catherine Vautrin, deux agences de notation, Fitch et Moody's, pourraient dégrader la note de la France dans l'après-midi. On attend Standard & Poor's pour le mois de mai. Il faut dire que nos comptes publics sont dans le rouge vif. Est-ce que ça vous inquiète?
Vous savez, effectivement, nos comptes publics sont dans une situation compliquée. On en connaît la raison. La raison, c'est que les recettes de l'exercice 23 n'ont pas été au rendez-vous en termes d'impôts sur les sociétés et même en termes de rentrée de TVA. À partir de là, le gouvernement a pris immédiatement ses responsabilités. On a baissé les dépenses, comme dans n'importe quel ménage. Quand vous avez moins de recettes, vous baissez vos dépenses. Et ce qui est important à rappeler, c'est que ça a déjà été fait par cette majorité. Souvenez-vous la situation des comptes publics quand le président de la République public a été élu en 2017. Souvenez-vous de la situation en 2018-19. La France a été capable de redresser ses comptes à ce moment-là. Il faut de nouveau être vigilant sur cette notion de moins recettes. Quand il y a moins de recettes, il y a moins de dépenses.
Vous allez faire des économies dans les dépenses de santé et de solidarité?
J'ai commencé par faire des économies dans les dépenses du budget travail. Sur 22 milliards de budget travail, effectivement, je dépenserai 1 milliard de moins cette année.
Santé et solidarité, est-ce que vous allez faire des réductions de dépenses?
Au moment où je vous parle, quand nous regardons les économies qui ont été faites, nous n'avons pas touché au budget santé.
Aujourd'hui, les plateformes de formation en réalité virtuelle comme Resil aident les sportifs professionnels et amateurs à s'entraîner pendant qu'ils récupèrent après une blessure. S'entraîner dans le métavers permet aux sportifs blessés de continuer à travailler leur concentration et leur temps de réaction, pour pouvoir affiner leurs compétences et reprendre leur sport avec confiance. Meta et le métavers ont déjà un impact.
Et si c'est un personnel médical qui le fait, ça s'appelle l'euthanasie, on est bien d'accord.
Sauf que, on a le principe du texte, c'est d'abord, le cas général, c'est d'abord que ce soit le patient
ça,
qui s'agisse.
Mais ce texte ouvre la voie à l'euthanasie.
Ce texte ouvre la voie à un sujet dans une situation bien précise, je viens d'en rappeler les conditions.
Oui.
L'élément important, c'est également l'expertise médicale qui permet de déterminer si effectivement la situation de santé, et c'est un point majeur, parce que ce texte s'appelle « fin de vie », mais pour aide à mourir pour des patients en fin de vie, je souhaite préciser cette notion de fin de vie qui est un état médical. En d'autres termes, cette situation peut concerner des gens qui sont malades et jeunes. Il ne faut pas lier la notion de fin de vie à une notion d'âge. C'est un point important de ce texte également.
Les cultes, et notamment les catholiques, sont farouchement contre ce texte. Qu'est-ce que vous leur dites?
J'ai longuement échangé avec tous les représentants de tous les cultes dans notre pays. Nous, aujourd'hui, nous avons dans ce texte des précisions et un encadrement qui permet de répondre à des situations tout à fait particulière. Et ce que je veux également mettre en avant, c'est que ce texte est la suite de travaux extrêmement importants du Comité consultatif national d'éthique, de la Convention citoyenne, vous y faisiez allusion. Je voudrais vraiment rendre hommage à cette Convention citoyenne. 185 personnes mobilisées pendant 3 mois, qui pendant 3 mois ont porté ce sujet. Et la réunion de cet après-midi en présence du Président de la République, c'est précisément de leur présenter ce texte de loi.
Est-ce que les critères que vous avez rappelés pour la fin de vie pourraient évoluer? On pense à la Belgique où les mineurs ont accès à l'euthanasie. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas prévu en France, mais qu'est-ce qui fait que dans quelques années, ça ne serait pas possible?
Aujourd'hui, le texte est très équilibré et notre volonté, c'est évidemment d'être sur ce chemin. Vous savez, quand on parle de vie et de mort, on parle évidemment d'humilité, de respect. Et tout le sujet, c'est évidemment de garder l'équilibre de ce texte.
Marion Maréchal, cette semaine, a qualifié la GPA, la gestation pour autrui, de monstrueuse et de honteuse. C'était chez Pascal Praud sur CNews. Et vous, comment qualifiez-vous la GPA ?
Mais écoutez, moi, je n'ai pas du tout ce sujet dans mon calendrier, ni dans ma feuille de route, donc je n'ai pas de qualification, je n'ai pas de commentaire, et ce n'est pas du tout un sujet que je vais ouvrir. J'ai suffisamment de sujets comme ça à traiter.
Est-ce que moralement, la GPA est une pratique ?
Je n'ai pas aujourd'hui à travailler sur ce sujet, je n'ai pas commenté ce dossier.
Catherine Vautrin, je voulais vous entendre également sur la grève dans les hôpitaux privés. À partir du 3 juin et pendant plusieurs jours, tous les hôpitaux privés vont se mettre en grève. Ils ne pratiqueront plus aucune opération, pas même les urgences, uniquement les dialyses. Ils s'estiment maltraités en France. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Évidemment, nous discutons avec l'ensemble des cliniques privées. Alors, quand on parle clinique privée, il y a un éventail très important. Il y a de très, très grands groupes, il y a également des groupes familiaux. Frédéric Valletoux, qui est mon ministre délégué en charge de la prévention et de la santé, rencontre évidemment les cliniques privées. La porte est grande ouverte et nous dialoguons. Je tiens également à dire que la tarification qui a été mise en place cette année, puisque c'est de cela dont il s'agit, donc... Oui. Pour les téléspectateurs, il faut expliquer que chaque année, la Sécurité sociale donne une feuille de route qui permet à l'ensemble des établissements de savoir comment tel ou tel acte sera rémunéré. Ce qui était également important et qui a été mis en place cette année, c'est évidemment de rémunérer notamment des actes comme la médecine, la chirurgie et l'obstétrique qui avaient des grands besoins de reconnaissance. C'est fait dans la tarification pour cette année.
Parce que le système de santé français ne pourrait pas fonctionner sans le privé.
Le système français repose sur deux jambes. Et moi, je veux dire mon attachement à ces deux jambes, c'est-à-dire d'un côté, effectivement, le système public, de l'autre côté, le système privé. C'est la particularité française, elle mérite le respect et l'écoute.
Le gouvernement va reprendre en main les futures règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi, Catherine Vautrin. Décision prise après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux, syndicats et patronats, il y a deux semaines. Vous allez tout de même les rencontrer, les partenaires sociaux, avant de trancher ou pas ?
Je les rencontre tout le temps, bien sûr que oui. Alors peut-être qu'il faut quand même qu'on rappelle en deux mots ce qui s'est passé. Le sujet, en fait, sur l'assurance chômage, c'est une convention qui se discute entre l'État et les partenaires sociaux et qui permet d'avoir une convention pluriannuelle. Cette convention se termine au 30 juin 2024. Les partenaires sociaux devaient normalement rendre leur copie pour le mois de décembre. En novembre 2023, ils ont acté le fait qu'ils avaient besoin de temps. Le gouvernement a dit très bien, nous prenons ce qu'on appelle un décret de jointure pour aller jusqu'au 30 juin 2024. Les partenaires sociaux devaient rendre leur copie le 26 mars. Le 26 mars, ils nous ont dit, pas possible, on a besoin d'un peu plus de temps. Ça a été le 8 avril et finalement le 15 avril, ils ont acté un dissensus. À partir de là, nous, notre sujet, vous le comprenez bien, c'est d'avoir une solution au 1er juillet. Et là-dessus, je voudrais être très précise.
Oui.
Moi, j'ai un objectif, c'est de ramener le plus de personnes possible à l'emploi. En d'autres termes, quand quelqu'un est au chômage, on ne choisit pas d'être au chômage. En revanche, toute la question, c'est comment on travaille votre employabilité pour vous permettre le plus vite possible de remonter dans le train de l'emploi. Et c'est ce qui nous guide. Je travaillais sur le sujet avec le Premier ministre, pas plus tard qu'hier après-midi. Notre objectif, c'est vraiment de ramener les gens vers l'emploi. Nous n'avons, au moment où nous parlons, si je parle particulièrement de l'emploi des seniors, moins de 40% des personnes entre 60 et 64 ans sont en emploi.
Alors, on va être très précis, vous voulez être très précise, on va l'être. Il y a trois leviers qui peuvent être activés pour durcir les règles, modifier les règles. La durée d'indemnisation, le montant de l'indemnisation, évidemment, et la condition d'affiliation, c'est le temps qu'il faut avoir travaillé pour être indemnisé. Quel levier vous allez modifier ?
Moi, je regarde précisément trois choses. Le premier, c'est quel effet sur l'emploi ? En d'autres termes, combien de personnes je peux remettre en emploi ? Deuxièmement, quel est le risque de précarité ? Parce que le sujet, c'est qu'effectivement, les personnes qui sont en situation de chômage doivent pouvoir continuer à vivre. Troisièmement, l'économie potentielle. En d'autres termes, rien n'empêche d'être créatif et de réfléchir à d'autres dispositifs. Et c'est ce sur quoi nous travaillons.
C'est-à-dire ?
On peut regarder d'autres éléments. Là, vous avez cité trois paramètres qui sont plutôt des paramètres que l'on connaît aujourd'hui.
Oui.
On peut réfléchir à d'autres choses.
Comme ?
Je n'irai pas plus loin aujourd'hui, ça n'est pas arbitré, mais c'est ce sur quoi nous travaillons.
Donc, autre chose, vous toucheriez à autre chose que l'un de ces trois critères ?
On peut envisager d'autres éléments.
Vous pourriez envisager d'autres éléments. Alors ça c'est une annonce faite ce matin. Marie-Lise Léon, la présidente de la CFDT, a déclaré « Le gouvernement utilise le prétexte du plein emploi pour aller taper dans les poches des chômeurs. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Que je ne tape pas dans les poches des chômeurs, j'accompagne les chômeurs vers l'emploi et que mon premier objectif, nous avons besoin de créer de la richesse et la meilleure chose qui puisse arriver à un chômeur, c'est de s'émanciper par le travail, c'est donc de l'accompagner vers l'emploi. Elle le sait, on en parle suffisamment souvent.
Oui. Est-ce que le gouvernement fait suffisamment justement pour favoriser le retour à l'emploi? Cette semaine, à votre place, il y avait Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.
Et UMM.
Et président de l'UMM, donc un secteur du patronat. Il déplorait qu'il y ait un manque cruel de main-d'œuvre dans le secteur de l'industrie, notamment alors que les postes à pourvoir sont nombreux. Ça, les Français, on n'arrive pas à comprendre.
Mais c'est bien pour ça, et je partage l'avis d'Éric Trappier sur le sujet. Pour ça, on a plusieurs solutions. La première, nous avons avec Nicole Belloubet, un haut commissaire à l'emploi. Son objectif, faire le tour des lycées, rencontrer les lycéens pour leur expliquer l'intérêt d'aller vers ces métiers. On a un premier sujet en France, le sujet de l'orientation. Deuxième sujet, l'évolution, la formation professionnelle. Et c'est là où justement, par exemple, quand nous travaillons avec France Travail, qui a été mis en place pour aider justement les personnes demandeurs d'emploi, l'idée c'est de les accompagner dans des formations qui permettent, un, de renforcer leur employabilité, deux, d'aller vers des secteurs qui cherchent. Et je suis parfaitement d'accord, et c'est le sens de la mission que j'ai confiée à France Travail, on forme là où il y a des besoins. La meilleure solution, c'est d'entrer en immersion dans l'entreprise, découvrir les métiers de l'entreprise, se former, et c'est comme cela que nous aurons la main-d'œuvre dont nous avons besoin. C'est un enjeu stratégique pour la réindustrialisation du pays.
Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, était l'invitée de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup, madame la ministre. Bonne journée.
Merci, Romain Desart. Merci, Catherine Vautrin. Vos signatures Europe 1 du vendredi. Dans un instant, nous commencerons par Catherine Ney.
7h, 9h. Europe 1 matin.
La 1664 est moelleuse, complexe, avec des notes florales et une fine amertume. Oh, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le pack de 28 bières blondes 1664 de 25 centilitres est à 12,88€ seulement au lieu de 18,40€. Et c'est jusqu'à lundi chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, soit 1,84€ le litre. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Tic-tac, 4 jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ces portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200€ par tranche de 1000€ sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
C'est si bon.
Charolaise.
Partenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf.
C'est si bon.
Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Et oui.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez Grand frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
7h, 9h.
Europe 1 matin. Vous êtes sur Europe 1, il est 8h30, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent. Christophe Lamarre.
La France, dans l'attente du verdict des agences de notation, Fitch et Moody's doivent rendre leur évaluation de la qualité de la dette française dans la soirée. Une dégradation ferait surtout mauvais effet sur le plan politique. Elle aurait à ce stade peu de conséquences sur la capacité de l'État français à s'endetter sur les marchés. La campagne pour les élections européennes, le Rassemblement national continue de creuser l'écart sur le baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD, avec 30% d'intention de vote. le RN compte 12 points d'avance sur la liste Renaissance de la majorité présidentielle. Classement sans suite plus que probable dans l'enquête judiciaire sur la blessure par balle de Kenji Girac. Selon le procureur de la République, le chanteur aurait simulé une tentative de suicide après une dispute avec sa compagne qui menaçait de le quitter. Et puis premier match de la 31e journée de Ligue 1 de football ce soir, Montpellier-Nantes à 21h.
Merci Christophe Lamarre. Le temps, Anissa, ciel gris, température en hausse.
Oui, les températures en hausse, effectivement, on n'a plus de valeur négative ce matin sur l'ensemble des régions et cet après-midi. Alors, ça grimpe certes, mais on est toujours en dessous des moyennes de saison avec l'ensemble des températures comprises en dessous de 20 degrés. Hein. 19 pour Carcassonne, 18 à Bastia et Grenoble, 16 degrés pour Paris, Chambéry, Clermont-Ferrand, 15 à Orléans, Metz et Lyon, 13 degrés à Besançon, Brest et Saint-Étienne et 10 degrés à Dunkerque dans le ciel. Alors c'est chaotique aujourd'hui, hein. On a des nuages quasiment partout, des nuages qui s'accompagnent d'averses, avec des averses ce matin le long des côtes de la Manche entre les Hauts-de-France et la Bretagne, des averses le long de la façade atlantique également, et puis des averses soutenues du bassin méditerranéen jusqu'au Grand Est en passant par la vallée du Rhône et la Bourgogne. Et dans ce secteur, on a un risque d'orage important entre les Cévennes et le Var avec de la neige sur le massif central et les Alpes à partir de 1300 mètres. Cet après-midi, il y aura quelques éclaircies en plus sur la moitié nord, mais les orages deviendront de plus en plus nombreux et de plus en plus importants sur l'ensemble du pays.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est l'heure de vos signatures. Dans un quart d'heure, vous retrouverez Dimitri Vernet et son zapping politique. Eugénie Bastier, elle sera avec nous également. Elle nous parlera ce matin de la GPA, la gestation pour autrui, avec cette avancée législative au niveau européen. La revue de presse d'Europe 1, c'est dans 5 minutes également. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour Dimitri.
Dans les journaux ce matin.
Eh bien moi je vais vous parler d'une décision, d'un discours qui n'imprime pas, d'une mauvaise note qui pourrait bien tomber aujourd'hui. Et puis je vous ferai découvrir la nouvelle attraction parisienne.
Allez, à tout de suite, Olivier. Mais d'abord, comme tous les vendredis sur Europe 1, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Catherine, il y a 7 ans, Emmanuel Macron prononçait à la Sorbonne un grand discours sur l'Europe qui avait beaucoup impressionné à l'époque. Rebelote hier, histoire de fêter l'anniversaire. Le président sur tous les fronts, vous l'avez évidemment écouté.
Oui, d'ailleurs, chaque jour, vous voyez, le président nous donne de ses nouvelles et c'est comme une bande dessinée. Vous voyez, la veille, c'était la légèreté. Il gambadait sur un terrain de foot, entouré d'anciennes célébrités, il a marqué une pénalty, fallait bien cette image, le goal est resté immobile, c'était pour les pièces jaunes, avec en prime une bise de Brigitte. Mais le lendemain, gravité, force 9 sur l'échelle de Richter, Emmanuel Macron parlait comme s'il était le président de l'Europe qui s'adressait à ses pairs et à eux seuls. Nous sommes à un moment de bascule, nous devons être lucides, l'Europe peut mourir, ça dépend de nos choix. Et de dérouler un plan copieux durant 2 heures, pratiquement sans boire, je ne sais pas vous, mais c'est tout de même une épreuve physique. Trop de choses importantes à ingurgiter à la fois, on ne peut pas. C'est comme un gavage persécuteur. Et chez lui, on note une absence d'autodiscipline incorrigible. On lui dit toujours de faire court, il ne peut pas.
Oui, si on relit le discours plume à la main, donc 30 pages hein, tout de même, hein, oui. L'analyse qu'il fait de la situation est percutante et on ne peut qu'adhérer à ses propos, Catherine.
Mais oui, mais il y en a tellement que c'est difficile d'en faire le résumé. En tous les cas, lui, il dit d'abord, bien sûr qu'il faut l'Europe doit trouver son autonomie stratégique. La guerre est revenue sur le sol européen. L'Ukraine est envahie par la Russie, puissance, dit-il, désinhibée dotée de l'arme nucléaire. Il faut créer une défense européenne crédible. D'ailleurs, quand on ajoute un adjectif, c'est bien que ce n'est pas encore le cas. La France joue tout son rôle, dit-il. Nous avons un modèle d'armée complète, ce qui est vrai. Notre armée est d'ailleurs sûrement la meilleure du monde. Mais si nous avions été envahis, eh bien nous n'aurions pas tenu 2 jours avec les 140 000 soldats d'armée de terre, 220 chars, quand depuis 2 ans, l'Ukraine a détruit 3000 chars russes. Il prône aussi la préférence européenne sur les achats d'armement. Oui, mais comme nous n'étions pas en économie de guerre, comment vendre quand on ne produit pas ? Les Allemands achètent américains et coréens. Pareil pour les Polonais. Aujourd'hui, nous produisons 40 000 obus et les Allemands 400 000.
Alors Emmanuel Macron dit aussi que l'Europe doit composer avec les États-Unis et la Chine, qui pourtant ne respectent pas les règles du commerce.
Oui, et qui subventionnent leur secteur critique. Alors qu'on sait bien qu'ils nous en empêchent. On ne peut pas être les seuls à respecter des règles d'il y a 15 ans, dit-il. Nous sommes trop naïfs, ça ne peut pas durer, dont acte. Vous voyez, l'Europe est entourée d'ennemis et d'amis.
Alors, vous avez dit, Catherine, que c'était un discours qui est difficile à résumer, tant il est copieux, mais qui est à la fois crispant pour nos partenaires. C'est aussi ce que l'on attend de la France, peut-être, non ?
Eh bien oui, parce que figurez-vous que tous les présidents de la Ve République ont fait avancer l'Europe. Le général avec le traité de Rome et le chancelier Adenauer, Georges Pompidou a fait entrer l'Angleterre, Valéry Giscard d'Estaing sans doute le plus actif avec l'élection au Parlement européen, les G5, les G7, les conseils européens, François Mitterrand, avec Jacques Delors, qu'il ne faut pas oublier, a créé Maastricht, la monnaie européenne, la réunification de l'Allemagne, il faut dire d'ailleurs malgré lui. Chirac, c'était la Constitution européenne. Nicolas Sarkozy, le traité de Lisbonne qui a empêché le Frexit. Et avec toujours les couples franco-allemands, Giscard Schmitt, Mitterrand Kohl, Chirac Schröder, Nicolas Sarkozy Merkel. C'était un dialogue permanent. Mais Emmanuel Macron, lui aussi, a un bilan, avec un pouvoir d'entraînement réel. D'ailleurs, hier dans son discours, il disait que 80% de ses propositions avaient été adoptées. Et il peut se targuer, par exemple, de l'empreinte 80 milliards, oui, pour affronter la pandémie du Covid arrachée à Madame Merkel. Alors aujourd'hui, avec Olaf Scholz, fait pas franchement marié au premier regard, mais il faut bien reconnaître qu'après s'être trompé sur Poutine, qu'il ne fallait pas humilier, Emmanuel Macron a été celui qui était le plus offensif et qui a sûrement fait bouger les Européens pour s'armer et lutter contre l'ours russe.
Et il y a une particularité française qui n'a aussi jamais cessé, Catherine, vouloir faire l'Europe en menant une politique à rebours des autres, et notamment de l'Allemagne.
Oui, une politique économique. Et d'ailleurs, c'est Mitterrand qui a ouvert la voie avec les débauches de dépenses, sécurité sociale de 80 à 82. Il y a eu la retraite à 60 ans, les 39 heures payées 40 en attendant les 35 heures, toutes les pensions de retraite, salaires augmentés, la consommation, nous disait-on, favoriserait la croissance et donc l'emploi. L'endettement de la France a commencé à partir de là et on n'en est plus jamais sorti. Mais Emmanuel, de son côté, prône pour les agriculteurs une PAC simplifiée, moins de complicité, alors que la France est la championne de normes et d'interdictions d'utilisation de produits qui pénalisent nos agriculteurs. Il souhaite aussi une Europe puissante économique, mais nos entreprises sont les plus lestées d'Europe en taxes et impôts. Voilà.
Merci.
La différence.
Ben oui, vous avez totalement raison de le souligner. Merci beaucoup, Catherine Ney. Votre regard sur le discours d'Emmanuel Macron, le discours de la Sorbonne 2. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Eugénie Bastier pour nous parler de la GPA et la revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1.
Ce week-end sur Europe 1, demain à 9h15,
Julia Vignali accueille Éric et Ramzy qui reforment leur duo pour trouver la nouvelle pépite de l'humour
dans le télécrochet Comedy Class, disponible sur Amazon Prime Video.
Le soir, de 19h à 20h,
Laurie Choleva parle cinéma avec Artus, réalisateur du film
Un petit truc en plus, en salle mercredi prochain. Et dimanche, de 21h à 22h,
terminez votre week-end en musique avec Joe Hume. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Vous êtes à la tête d'une TPE ou d'une PME, votre entreprise a un impact positif sur l'environnement, sur votre territoire ou sur la qualité de vie de vos salariés, candidatez à la 4e édition des Trophées Generali PME Enterprise et devenez l'une des PME lauréates. Rendez-vous sur generali.fr/PME durable et c'est avec Europe 1.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Le patron, ils les ont à 1,99€.
Les avocats ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de deux avocats est à 1,99€.
Moins de 1€ l'avocat pour le lot de deux. Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est la vocation de Lidl, non ?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justice, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, diverses origines selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Chez Ixina, à partir de 2990€, vous avez une cuisine sur mesure. Et électro inclus. Et en plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet.
Ah oui, en plus, elle est garantie 10 ans.
En fait, le prix Ixina, c'est vraiment bien plus qu'un prix.
Ixina, oui à vos rêves.
Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur Ixina.fr.
Il était une fois, un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Europe 1 matin, 7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
À partir de lundi, découvrez la nouvelle formule d'Europe 1 Soir avec Pierre de Villeneuve.
Oui, c'est de 19h à 21h tous les soirs, 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1. Europe 1 Soir, nouvelle formule, c'est de 19h à 21h, présenté par Pierre de Villeneuve et c'est dès lundi sur Europe 1.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, on imagine que le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, dont on vient de parler avec Catherine Ney, eh bien que ce discours fait les gros titres.
Eh bien non, Dimitri. Très rares sont en fait les quotidiens régionaux à y consacrer leurs manchettes. Au mieux, il y a ce qu'on appelle un appel en une, un petit sous-titre qui renvoie à un article en page intérieure. Mais Ouest France, par exemple, qui aime à se présenter comme le premier quotidien national, n'en dit pas un mot en première page, rien. Et en une, le directeur de l'Opinion est assez seul ce matin à s'indigner de ce désintérêt général. Que penser d'un discours fondamental sur l'Europe lorsqu'il est relayé sur les chaînes d'infos continues derrière l'affaire Kenji Girac ? S'étrangle Nicolas Bétou. Oui, sans doute, mais il n'est pas certain que les Français soient restés devant leur écran pendant 2 heures pour écouter le chef de l'État, semble lui répondre Olivier Biscay, le directeur du Midi Libre, qui parle d'une intervention multidirectionnelle et parfois confuse. Dense. C'était un discours dense, commente pour sa part Jean-Christophe Ploquin à la Une de la Croix. Dense qui, en langage journalistique, veut dire ennuyeux. Oui, les macronistes auraient tort d'espérer un impact immédiat de l'adresse de la Sorbonne, qui ne peut être qu'un discours à infusion lente, écrit Guillaume Tabar dans les colonnes du Figaro, qui lui non plus d'ailleurs ne consacre pas son plus gros titre à ce discours.
Alors qu'est-ce qui intéresse le Figaro ce matin ?
Tic-tac, tic-tac, écrit un rien sadique Gaëtan de Capel dans l'édito à la Une du journal, plus que quelques heures à patienter et le gouvernement saura s'il doit subir ou non l'affront d'une dégradation de la note financière de la France. Le Moody Blues, comme il l'appelle joliment, c'est le titre de son édito, Moody Blues, ou la peur de l'agence Moody's. La France ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle se retrouve dans une situation de soumission, écrit-il, tant de mauvaise gestion a ruiné notre crédibilité. Vous trouvez ça dur ? Eh bien, vous n'avez rien lu. L'Express, qui n'est pas sur le papier le journal le plus hostile à la Macronie, l'Express publie en couverture une photomontage. Macron et le maire sont sur un bateau qui coule. La France plombée, titre l'hebdo. Et dans ses colonnes, Béatrice Mathieu adresse un zéro pointé à la Macronie. Chiffre à l'appui, elle démontre que la crise Covid et l'Ukraine ont bon dos. Depuis 2017, l'exécutif porte une lourde responsabilité dans la dérive des finances publiques, écrit-elle. Le bilan d'Emmanuel Macron est accablant. Alors, reste à savoir quand même si la France sera ou non dégradée. À la recherche de quelques infos, on s'est bien surplongé dans les échos, dont l'actualité économique et financière est a priori la spécialité. Eh bien, on a lu, relu. Pas un mot, Dimitri, pas un mot sur cette possible dégradation de la France, comprenne qui pourra.
Alors, après avoir énuméré ce que vous n'avez pas lu, Olivier, dites-nous ce que vous avez trouvé dans les journaux.
Eh bien, on découvre que Emmanuel Macron n'est pas rancunier, c'est dans le Parisien, alors qu'il va peut-être assister à la dégradation de la France par des agences américaines. Il souhaite recevoir Joe Biden en visite d'État, le top du top en matière de protocole. Marcelo Westfred et Henri Vernet nous apprennent que l'Élysée tente effectivement de convaincre le président américain de rester en France après le 6 juin pour une visite d'État, donc de 2 ou 3 jours. Bref, jusqu'aux élections européennes, ce serait parfait. En tout cas, si Biden vient à Paris, il faudra l'emmener voir la nouvelle attraction de Montmartre. Pas le Moulin Rouge, qui sans ses ailes ne ressemble plus à grand-chose. Non, je veux bien sûr parler de la nouvelle ZAD. Parce que ça y est, Paris a désormais la sienne. L'info est dans le Figaro. Moins boueuse que Notre-Dame-des-Landes, plus chic que le chantier de la 69, il y a désormais la zone à défendre du boulodrome de Montmartre. Un petit terrain de 765 mètres carrés sur lequel dorment désormais tous les soirs les membres du club de pétanque pour éviter d'être expulsés. C'est Stéphane Kovacs qui a mené l'enquête. La mairie de Paris a effectivement décidé de déloger ces amateurs de boules pour confier l'espace à un hôtelier de luxe mitoyen. Celui-ci promet d'y installer en lieu et place des joueurs de pétanque en Marseille, des abris naturels pour une faune diversifiée, un composteur collectif. Cette réorchestration écologique permettra des cours de méditation et d'apiculture. Bref, vous avez compris, eh bien les boulistes aussi, ils n'en veulent pas. Ils veulent garder leur terrain de boule et leur buvette. Il y a un enjeu social, culturel et sportif. Ici se retrouvent des gens de tous âges et de tous milieux pour jouer aux boules et aux cartes autour d'une bière à 1,50€. explique Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby qui fait partie des zadistes. L'hôtel, c'est magnifique, poursuit-il, mais il faut sortir le billet pour s'asseoir. Voilà la lutte des classes entre bobos et bouboulistes. Tout cela arbitré par le Figaro. Vous ne me direz pas, après tout cela, qu'il n'y a rien dans les journaux.
Vous êtes plus boulodrome ou composteur collectif ?
Je suis plus bouboliste. Ah.
Le contraire m'aurait étonné. Merci beaucoup Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1. 8h46, Pascal Pro vous attend, vous le savez, sur l'antenne d'Europe 1 de 11h à 13h pour converser de tout et de rien, de l'important et du moins important. Mais quoi, c'est bon, c'est une bonne présentation de notre émission. Si vous voulez parler de tout et de rien, écoutez Europe 1. Bon, c'est vrai Pascal, il y a des grands sujets, il y en a de moins grands, mais les conversations n'est pas moins plaisantes.
Mais comment dire, le diable est dans les détails.
Vous avez raison. Bah là,
bon, par exemple, qu'est-ce que je retiens d'hier d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que je retiens fondamentalement?
Ça a été long, apparemment.
Et point, 1h50,
oui.
C'est fou. Parler pendant 1h50. Vous vous rendez compte ce que ça signifie, ce que ça veut dire?
Ah bah je sais,
même pour les gens qui écoutent.
Ouais.
Mais comment, je ne crois pas qu'un président de la République n'ait jamais fait un discours d'1h50. Je crois que c'est jamais arrivé, même en meeting.
Oh, c'est Fidel Castro.
Lui, souvent, plusieurs fois.
1h50.
Hugo Chavez, peut-être, ou Fidel Castro.
Je trouve que ça.
Petit joueur, Emmanuel Macron, qu'on parle.
Je vous assure, je trouve que ça dit plus que n'importe quoi.
Oui. Ouais.
Ça dit quoi?
Ça dit que bah, tu es ce que tu fais dans la vie. Il aime parler, il aime s'écouter. Voilà. C'est aussi bête que ça. Il aime s'écouter. Je suis pas sûr que les gens. En plus, c'est plutôt confus au bout d'un moment. Et, oui, parce que évidemment, c'est trop. De Gaulle, il parlait. Je crois que son fameux discours de 68, ça a duré moins de 5 minutes. Alors, l'appel de 18 ans, j'en parle pas. Bon. En revanche, le procureur de je ne sais où d'ailleurs, le procureur de
Mont-de-Marsan.
Il va peut-être.
Ça vous a plu cette conférence de presse.
Je pense que lui, il va peut-être entrer chez Voici, lui.
Ah oui.
Ben oui, parce que c'est quand même incroyable les informations qu'il donne. C'est-à-dire que
d'ordre privé. Ouais.
Mais bien sûr, Monsieur Kenji Girac n'est poursuivi pour rien et tu étales sa vie.
Oui, c'est vrai.
Tu étales sa vie privée.
Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui décide un procureur à livrer tant d'informations à la presse sur une affaire et
Andy
pas
Warhol,
dans une autre.
Andy Warhol.
C'est le quart d'heure warholien.
Bon.
Il y a un précédent Molins, vous savez, c'est exactement ça.
Approchez-vous, Olivier Delagarde, dans les micros.
Non, mais
il y a un précédent Molins, le procureur pareil, qui a commencé à donner des interviews.
Oui, mais Molins, c'était sur des.
C'était sur
le terrorisme. Le procureur de Crépole, j'aurais aimé l'entendre, il n'y a jamais parlé, lui.
Oui, c'est vrai, vous avez
jamais
raison.
Jamais. Surtout, il est aux abonnés absents. Mmh.
Bon, autrement, c'est bon.
On ne sait rien.
Autrement, donc, c'est vendredi, peut-être un peu de légèreté aussi, Pascal.
Oui, alors,
il va y avoir un mariage pendant l'émission. Même deux pour le prix d'un, je crois.
Non, c'est assez extraordinaire. C'est un père, quoi. C'est deux sœurs qui vont se marier, alors non pas avec la même personne, mais avec qui vont se marier le même jour.
Voilà. Oh, c'est chouette.
Ouais. Ce sont les sœurs cadeaux. Elles sont en Bretagne.
Exactement. Bah, voilà. Je vois que vous savez tout.
Et puis, je m'intéresse à votre émission. Je vous écoute tous les jours.
Oui, on peut écouter de tout et de rien. Donc.
il s'est vexé.
Franchement, vous savez bien, moi,
qui
je t'aime
bien.
Châtie
bien voilà.
Et puis, je rappelle, quand il y a des grosses cagnottes ce soir, jouez quand même.
Ah, bah,
on est à
130. C'est combien ce soir? 133.
Pascal, vous savez qu'à cause de vous, ma femme, elle joue toutes les semaines.
Oui,
c'est à cause de vous. Enfin, c'est grâce à vous, peut-être.
Ouais, si vous gagnez, vous serez bien content.
Bah oui, j'espère que vous me donnerez un petit pourcentage.
Non, n'y comptez pas.
Si vous gagnez.
Il vous donnera son petit.
Non, vous voulez pas.
Bon, allez, il faut y aller.
Elle vous a parlé, Anissa, du petit lion qu'elle avait hier.
C'était formidable. Oui, le Socha Lion était dans le studio de Rapin hier. Si vous avez manqué ça, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, c'était très bien.
Il y a eu des retrouvailles très émouvantes. 01 80 20 39 21 pour joindre Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.
Bon, et on vous retrouve dans 10 minutes, Pascal, pour l'heure des pros. Allez, place à Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie.
Bonjour Dimitri.
Vous nous parlez ce matin de la GPA. Vous revenez sur la polémique de la semaine provoquée par la réaction de Marion Maréchal à la promotion dans les médias des enfants du designer Jacquemus.
Oui, où est la maman? Voilà la question qu'a posée la tête de liste Reconquête sous une publication annonçant la paternité du couturier français et de son époux qui ont obtenu deux bébés en ayant recours à une gestation pour autrui à l'étranger. Alors aussitôt, les accusations d'homophobie ont plu envers la candidate, notamment de la part de membres de la majorité présidentielle comme Clément Beaune, Prisca Thévenot ou Olivier Dussopt. Alors, premièrement, j'aimerais rappeler que critiquer la location de l'utérus de femme pour obtenir un enfant n'a rien d'homophobe. La maternité de substitution est aussi critiquable lorsqu'elle est pratiquée par un couple d'homosexuels que lorsqu'elle l'est par des femmes milliardaires, par exemple, comme Chloé et Kim Kardashian, qui ont eu recours à la GPA parce qu'elles avaient peur de grossir et d'avoir des vergetures sur les fesses. La GPA, au nom du droit à l'enfant, méconnaît le droit des enfants à connaître leurs origines et le droit des femmes, puisqu'il s'agit, selon les mots de l'académicienne Sylvia Nagasinski, du retour d'une forme d'esclavage où le corps devient l'objet d'une transaction. Deuxièmement, il est curieux que des membres de la Macronie se permettent de soutenir la pratique illégale de la GPA, alors que le président de la République lui-même a dit que c'était une ligne rouge et une question d'éthique.
Alors certains jugent pour autant la GPA inéluctable après le mariage pour tous et la PMA pour les couples de femmes. N'est-ce pas le sens de l'histoire, Eugénie ?
Alors, vous savez, c'est un argument évidemment ressassé. Les bien-pensants de gauche s'effraient souvent d'une fenêtre d'Overton qui ne cesserait d'être agrandie par l'extrême droite. Celle-ci élargirait l'espace des idées acceptables dans le débat public en imposant des propositions jadis impensables sur l'immigration ou l'islam, par exemple. Mais que fait le progressisme sinon imposer par l'émotion dans le débat public des sujets que le sens commun jugeait choquants il y a quelques années ? Je songe par exemple à la promotion d'enfants transgenres dans les médias ou de couples ayant pratiqué la gestation pour autrui à l'étranger. Et c'est ainsi que l'impensable devient inéluctable. Alors, quand on fait remarquer aux promoteurs de la GPA...
Reprenez votre souffle, Eugénie. On n'est pas pressé.
Quand on fait remarquer aux promoteurs de la GPA que cette pratique est illégale, ils affirment que le progressisme a toujours avancé en mettant en avant des pratiques clandestines pour qu'elles soient ensuite légalisées. Ce fut le cas hier de l'avortement, aujourd'hui de l'euthanasie et demain, peut-être, de la drogue. Ça existe, donc il faudrait l'encadrer. Mais encore, faudrait-il définir ce qu'est un progrès ? On peut aussi faire valoir une logique inverse. Par exemple, la prostitution, jadis tolérée dans des maisons closes, est aujourd'hui interdite dans notre droit. D'ailleurs, de nombreuses féministes rejoignent les conservateurs sur ce point de la non-marchandisation du corps des femmes.
Mais on pourra vous objecter que la GPA, elle est déjà légale dans plusieurs pays.
Certes, mais la GPA n'est pas interdite seulement en France. Son exploitation vient d'être considérée par une directive de l'Union européenne comme faisant partie de la traite des êtres humains. On doit à François-Xavier Bellamy cet amendement historique, première condamnation dans le droit international de cette pratique, votée d'ailleurs grâce à l'appui d'une partie de la gauche européenne. Je m'étonne que les macronistes, par ailleurs les premiers à nous rappeler l'importance de l'état de droit face au péril populiste, à se dire plus européens que les autres, se permettent de piétiner le droit européen quand il ne leur paraît pas assez progressiste. D'ailleurs, on parle sans cesse, vous savez, des valeurs de l'Europe, de notre modèle civilisationnel qu'il faudrait défendre contre les agressions extérieures. Eh bien, je crois que parmi ces valeurs de l'Europe, il y a la dignité de la personne humaine, qui ne sont pas forcément des valeurs qui sont partagées dans le monde libéral anglo-saxon, où tout s'achète et tout se vend. Je crois que le sens de l'histoire n'est peut-être pas du côté que l'on croit.
Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. 8h54.
7h, 9h. Europe 1 matin.
Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous. 7 ans après son discours sur l'Europe à la Sorbonne, Emmanuel Macron nous a proposé hier l'acte 2, enfin plutôt l'acte 5 de sa tragédie.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Oui, voilà son propre bilan après 7 ans d'action. Mais est-ce vraiment surprenant ? Pas vraiment, surtout quand on entend notre dramaturge parler d'immigration.
L'immigration n'arrive pas en France directement. Elle rentre sur le continent européen, et en particulier dans l'espace Schengen, par d'autres frontières. Et donc la France a besoin d'une politique européenne efficace et d'une bonne coopération. Parce que l'immigration commence aux frontières européennes et pas simplement aux frontières françaises.
Oh, c'est bien. Il découvre le concept en 2024, c'est intéressant. Mais après, je vous le dis, je me suis quand même amusé devant ce discours, notamment lorsque le président a dit ceci.
En particulier le Green Deal. Pardon de cet anglicisme dans ce lieu.
Oui, je vous prie de bien vouloir avoir l'obligeance de m'excuser pour cet anglicisme dans ce lieu si mythique, la Sorbonne. 2 minutes plus tard.
Avec la task force pour nos startups, le Made in Europe, Chips Act, en passant par tout ce qui a été fait sur les clean tech ou d'autres. Du New Space Post Inflation Reduction Act.
Sacré Macron. Bon, vous en doutez bien, à 6 semaines des élections européennes, pour les oppositions, ce discours, c'est une entrée en campagne du président.
C'est un meeting pour Valérie, clairement.
C'est le cas de Léon Desfontaines du Parti communiste sur France Info. Léon, pas vraiment très fortiche en calcul mental.
En 2018, même si ma mémoire est bonne.
2017.
Et donc le premier discours, il y a 5 ans...
Qu'est-ce qu'il est bon, notre Léon !
Alors côté LFI, la tête de liste Manon Aubry, elle pense exactement la même chose, mais elle a été un petit peu plus loin dans l'analyse avec ses propres références sur CNews.
J'ai un peu le sentiment qu'on a eu affaire à un arnaqueur sur Tinder. Il vous fait les beaux yeux, il essaie de vous séduire, mais une fois qu'il vous a eu, il disparaît et il n'est plus là.
Ah oui, l'application de rencontre Tinder, c'est chaud avec Manon.
L'enjeu pour le 9 juin prochain, ce sera de passer au suivant, en swipe left, comme sur Tinder.
C'est bizarre, en 2022, elle avait matché avec Emmanuel, pourtant... Bon, écoutez.
On rigole beaucoup ce matin.
Qu'est-ce qu'on rigole avec Manon, tous les matins.
Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique. On vous retrouve sur Europe1.fr, sur les réseaux sociaux et également. Merci à vous. De 9h30, n'oubliez pas sur Europe 1 Culture Média, Thomas, il reçoit David Hallyday.
Oui, il est de retour pour un nouveau titre, mais qu'on connaît 100% en duo avec son père, et tout un album qui arrive de chansons reprises avec son papa. Vous allez voir, ça va être très émouvant.
Allez, dans un instant sur Europe 1, l'info continue, l'heure des pros. Je vous souhaite un excellent week-end, à lundi.
Europe 1.
Il y a une Opel pour chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Quand vous avez un bris de glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max. Hein.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49€. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais !
Le meilleur marché.
Soit 16,60€ le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, bougez plus.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin de 9h à 9h30 et sur CNews de 9h à 10h30 pour l'heure des pros. Emmanuel Macron rêve d'une Europe fédérale. Il ne le dit pas aussi clairement, bien sûr, mais c'est son dessein. Hier, dans son discours fleuve, 1h50, le général de Gaulle disait l'essentiel en 15 minutes, il a prononcé à de multiples reprises le mot « souveraineté ». Mais jamais il n'a dit souveraineté nationale. Alors de quelle souveraineté parle-t-il ? Emmanuel Macron pense qu'en matière économique, politique, pour la défense comme pour l'immigration, un gouvernement supra-européen avec un exécutif unique serait plus efficace que 27 gouvernements qui partent dans tous les sens.